Bonsoir Benoît Bouscarel et bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver avec Yvon pour une nouvelle saison sur de nouvelles routes de France et un nouvel horaire. Nous serons désormais chaque samedi à 18h dans l'un des 44 studios du réseau France Bleu pour vous transmettre quelques échos des régions françaises. Vous en livrez un instantané, hic et nunc, une histoire parmi d'autres, prétexte toujours à des rencontres et des portraits. Alors ce soir, nous sommes à Caen, dans les studios de France Bleu Basse-Normandie. Je dois prévenir les âmes sensibles qu'on a mangé du cheval. Sur la route, Julie Gacon, avec Yvon Croisier et Sophie Bobert.
Ah, c'est lui. Oui, c'est ça, c'est le numéro 22, Yvon.
Oh, qu'il est beau, avec ses petites pâquerettes dans les cheveux, là, regarde.
T'as vu sa robe, comme elle est belle. Elle scintille, là, sous les spots de la salle de vente de Deauville. Allez, je vais enchérir. T'es d'accord?
Allez, s'il te plaît. Mais t'as bien vu, il m'a fait de l'œil tout à l'heure.
Pour sur la route, ça serait parfait. Plus jamais avec cette vitesse, c'est un trotteur. Attends, il est mis en vente à 8000. C'est dans nos cordes, ça.
Franchement, c'est pas gentil, quoi. Tout à l'heure, on avait dit...
Ah, tu vas enchaîner. Ah non, tu te grattes le nez. Allez, vas-y, t'as ton carnet de chèque. Tu me donnes un stylo? Bon, bah t'es d'accord. Oh, bah c'est trop gentil. Viens, je te fais un petit bisou. Alors, je vais enchérir. Allez, 22 000, on la prend. Oh non, j'y crois pas. Mais viens de l'être jugé. Il a été vendu, mon poulain. Numéro 22, mais non, mais c'était vraiment celui-là que je voulais. Non, mais avec toi, on peut rien entreprendre. T'es hypo-réactif. Non, mais hypo avec un Y, Yvon. T'es un âne.
€22 000 pour un cheval de course. Une bagatelle, une vétille, confèrent les prix pratiqués il y a 3 semaines à l'hippodrome de Deauville. 200 000 € pour un pur sang bien né. 500 000 s'il se comporte comme un lion dans l'arène. Et puis allez, si c'est un coup de cœur, 2 600 000 €. Les palpitations de Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, émir de Dubaï, ont contribué à des enchères qualifiées d'historiques. Alors on parle là de deux mondes qui n'ont rien à voir, le trot et le galop. Et plus généralement, les courses ne sont qu'une facette de la filière équine, à l'honneur ici en Basse-Normandie et qui se targue d'alimenter 12 600 emplois, du maréchal ferrant au cavalier en passant par le vétérinaire et le fournisseur de foin. Le cheval des villes et le cheval des champs, c'est un peu le conte de ce soir, Alain Talon. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous pour ce premier épisode de la 5e saison de Sur la route. Vous êtes conservateur des musées du département de la Manche, en charge des territoires et des patrimoines, patrimoine notamment équin, que vous avez archivé, réuni, mis en valeur dans un très bel ouvrage consacré au cheval de Normandie. C'est son titre, du carrossier noir au sel français. On vous qualifie, paraît-il, Alain Talon, d'hypomaniaque.
Effectivement, j'ai cette faiblesse-là. Je suis passionné par les chevaux et par les femmes et les hommes qui les élèvent, qui s'en occupent. C'est effectivement un monde qui me passionne et plein de surprises, de rencontres assez extraordinaires.
Alors, un mot d'abord sur cette filière du cheval. Aujourd'hui, en Basse-Normandie, hein, principalement, première région du cheval en France, 126 000 emplois, on le disait, une vingtaine de centres de formation dédiés au métier du cheval, 5 centres de recherche et le siège du pôle de compétitivité filière équine, un vrai réseau soutenu par les politiques publiques.
Oui, les collectivités ayant conscience effectivement des enjeux financiers et économiques, comme vous l'avez indiqué, on fait l'effort et on consentit effectivement à structurer la filière primordiale dans la région en créant effectivement ce pôle de compétitivité.
Alors 15 licenciés pour 1000 habitants, c'est le meilleur ratio français, vous en êtes?
J'en ai été, oui.
Maintenant, vous êtes observateur, voilà. Vous n'êtes plus pratiquant,
oui.
On va dire. 31 hippodromes également en Basse-Normandie. Alors, dédiés aux courses de trot et de galop, c'est peut-être utile de faire la distinction dès le début de ces deux mondes-là, oui. Alain Talon, le trot et le galop.
Alors, en deux mots, le trot, c'est le monde de la ruralité. On trotte, effectivement, pour des raisons très anciennes. Et puis le galop, c'est la haute finance, c'est l'aristocratie par le passé. Un sport plus populaire, celui de la ruralité, étant consacré au trot, est plus discret, peut-être plus laborieux, mais on ne parle pas beaucoup de son travail lorsqu'on vit dans le monde du trotteur.
Les galopeurs sont des purs sangs. Oui. C'est quoi un pur sang? Qu'est-ce que ça veut dire?
Un pur sang est un cheval qui est issu d'un père, un étalon pur sang, anglais, et d'une mère qui est également pur sang.
Et un trotteur, c'est une race?
Maintenant, oui, le trotteur a été élaboré par le passé, et c'est aussi effectivement une race qui est fixée depuis le début du XXe siècle, dont l'histoire est très longue, très compliquée, avec plein de méandres, issue également du cheval anglais, mais aussi des souches normandes.
Alors, la basse Normandie, c'est aussi 160 000 hectares agricoles valorisés pour les chevaux, donc exeunt les vaches. La terre normande fait de bons chevaux, comme d'autres régions font du bon vin. Est-ce qu'il y a une qualité du terreau de la terre normande pour les chevaux?
La terre normande est excellente depuis au moins un millénaire, si ce n'est plus. Et puis aussi, donc, le climat, c'est un climat très tempéré, très doux, qui est propice à l'élevage des chevaux. La mer, effectivement, n'est jamais très loin des haras. Et effectivement, elle concourt à ce que l'élevage se fasse dans d'excellentes conditions.
Pourquoi? Ça veut dire quoi? La terre est riche en cuivre, en sédiments, je ne sais pas, en fer?
Oui, les chevaux, selon les différentes régions, les différents terroirs bas normands et normands, sont propices soit à l'élevage du trotteur ou du pur sang. On sait que les chevaux, ils poussent d'avec manière vigoureuse et que leurs muscles, leur ossature, leurs fibres sont de bonne qualité.
Voilà, des conditions de vie et d'élevage réputées les meilleures au monde. Alors, résultat des courses, en Normandie, on s'arrache les chevaux. Rousseau, on s'est engagé sur la grande avenue au quart de Turtot, à Deauville. Grande avenue qui habituellement mène à l'hippodrome pour les amateurs de course. Mais nous avons tourné à droite et rejoint ce grand espace en plein air dédié aux ventes de chevaux. Alors, espace en plein air, mais il y a aussi cette grande salle en forme d'amphithéâtre dans laquelle on entrera tout à l'heure pour les enchères à proprement parler. Ici, nous sommes cerclés de boxes. Combien de chevaux sont ici pour ces ventes de trotteurs? Car ce sont bien des trotteurs et vous êtes Hugues Rousseau, directeur d'Arcana Trot, qui organise les enchères de trotteurs.
Effectivement, pour vous répondre, l'enceinte que nous avons le plaisir d'observer donc était exclusivement dédiée à l'organisation de ventes de chevaux. Aujourd'hui, nous organisons une vente de trotteurs, couramment appelée 2100, et à l'instar des ventes de yearling galopeurs. Pur sang, qui sont organisés au mois d'août, qui sont très populaires et très plébiscités par la presse, etc. On y atteint bien souvent des records d'enchères. Aujourd'hui, on accueille 137 chevaux qui sont catalogués, et demain, nous en aurons un peu plus, autour de 200.
On entend quelques chevaux là, qui commencent à trépigner. Est-ce qu'ils ont fait beaucoup de routes pour venir jusque-là, en général?
Les chevaux viennent de toute la France, sachons-le dire. Pour une majeure partie de Normandie, qui est quand même la reine patrie de l'élevage des chevaux de course.
Alors voilà pour les bêtes, qui sont les hommes qui les accompagnent? Qui sont ces hommes et ces femmes là que l'on voit en caresser, leur parler à l'oreille, leur dire doucement?
Alors pour vous répondre, c'est une vente publique. Par conséquent, le plus large public est supposé pouvoir donc entrer sans difficulté sur ce site. Le profil à type est d'abord leur propriétaire éleveur, leur personnel, pour les établissements qui en ont plusieurs à présenter, ou pour les élevages d'une certaine dimension. Il nous arrive parfois qu'un élevage puisse être amené à présenter 15 sujets au cours d'une même vacation. Par conséquent, et bien évidemment, toute leur équipe est mobilisée pour faire plusieurs choses. La première, donc, les présenter les plus beaux possibles, bien toilettés, bien pensés, et non moins se tenir à disposition des éventuels acquéreurs qui vont demander à pouvoir les regarder. Et il y a par conséquent, et vous l'observerez très facilement, une habitude qui est prise de demander au personnel écurie de faire sortir les chevaux, de les faire marcher, voire de les faire trotter. Et pour les acquéreurs, pouvoir juger de leur profil physique en s'appliquant à essayer d'identifier des défauts. Et puis, encore une fois, c'est un achat un petit peu d'impulsion. On achète des sujets qui doivent nécessairement vous séduire. C'est un animal qui effectivement doit plaire. Et voilà, chacun a ses critères de choix. Mais voilà, vous pouvez l'observer comme moi. On en voit sans cesse sortir des box, re-rentrer dans le box, parce qu'il peut y avoir, pour un, aucune visite, pour un même cheval, 30 visites. Ça va dépendre après du profil, tout simplement.
Est-ce qu'il y a un clou des ventes aujourd'hui? Est-ce qu'on en parle de clou des ventes pour les trotteurs aussi?
Ce qu'on attend sur un certain nombre de numéros, c'est des enchères les plus importantes possibles, puisque le jeu de l'organisateur que nous sommes, c'est de pouvoir permettre à ces chevaux d'être vendus le plus cher possible, et pour satisfaire d'abord nos vendeurs, puisque c'est bien pour ça qu'ils sont venus.
Donc plus le chèque est gros, et plus on se dit que la filière équine française se porte à merveille.
Je crois qu'il ne faut pas non plus prenez en excellence la santé d'un monde qui peut être celui de l'élevage de façon générale, en faisant valoir la vente aux enchères d'un sujet à un prix record. Ça pourrait être l'arbre qui cache la forêt. Alors il faut bien distinguer effectivement le marché qui est celui des pur sang, des galopeurs, différemment celui des trotteurs. On ne s'adresse absolument pas au même public, ce n'est absolument pas la même clientèle, ni même absolument, voire dans aucun cas, les mêmes producteurs. Les gens, je dirais, qui sont éclectiques sont plutôt rares. Donc c'est un marché, vous verrez, où le prix moyen, il est indiqué d'ailleurs sur nos sites, on peut les retrouver très facilement, est de l'ordre de 25 000 euros sur la longueur de la vente. Nous, ce que nous recherchons, organisateurs de vente, c'est plus une profondeur de marché, c'est de permettre au plus grand nombre de transactions de s'opérer. C'est ce qui fera la crédibilité d'une telle organisation, plutôt que de vendre un cheval ou deux à des prix records, et puis de voir qu'à côté, il ne se passe pas grand-chose, et ce serait terrible. La vraie santé d'une filière, c'est de montrer qu'elle suscite des engouements de la part de plein d'investisseurs différents.
En août dernier, donc il y a quelques semaines, au même endroit, ici à Deauville, se tenait la vente de galopeurs, des pur sang, dont le plus cher est parti à 2 600 000 euros. C'est un émir de Dubaï qui l'a acheté. 2 600 000 euros, vraiment on brasse de plus en plus d'argent sur cette filière-là, sur les courses de chevaux.
Alors, ce secteur a repris des couleurs. Reconnaissons que si les ventes fonctionnent, c'est qu'aujourd'hui, sur la place de Deauville, sont proposés donc aux clients les plus riches, ou je dirais de façon claire de tous les pays du monde, une qualité de chevaux qui n'existait pas jusqu'alors. Oui, c'est une filière, quand on s'en tient au résultat du mois d'août, qui semble effectivement donner l'impression de prospérer. Mais n'oubliez pas que c'est l'élite et seulement l'élite lors de ces ventes. Et pour revenir aux trotteurs, au risque de me répéter, ce n'est pas du tout la même clientèle. On n'a malheureusement pas le même relais sur autant de pays à l'international. Et c'est la raison pour laquelle je pense que notre marché va se tenir. Mais encore une fois, nous n'aurons pas le plaisir d'annoncer de tels records d'enchères. C'est pas du tout, comment dirais-je, le même sport et pas du tout le même type de prestataire, d'acteur qui s'y manifeste.
Donc pas de prince saoudien ni d'émir de Dubaï aux ventes de trotteurs.
Je le déplore, mais non, toute cette clientèle du Moyen-Orient ne s'intéresse absolument pas aux courses de trotteurs, s'intéresse exclusivement au pur sang, et par conséquent, non, j'ai pas encore le plaisir de vendre un trotteur, ni un émir de Dubaï, ni du Qatar, ou encore d'Abu Dhabi, ou autre chose. Puisque, en plus, c'est des pays où les courses de trotteurs n'existent pas.
Qu'est-ce qui définit le prix d'un cheval?
Alors, trois critères essentiels. Le premier, c'est le pédigré, avec un coût de fabrication dont le premier axiome est celui du prix de la saillie. Ensuite, la qualité physique d'un cheval. Et après, je dirais, il y a des effets de mode. Vous avez des fois des étalons qui ont le vent en poupe, qui, c'est un petit peu après les résultats sportifs qui font qu'un étalon est plus regardé qu'un autre et sur lequel peut exister plus de focus et qui, par conséquent, fait la différence et obtient de meilleurs résultats en vente.
Bon, Hugues Rousseau, vous avez un préféré, là, aujourd'hui?
J'en ai plusieurs. Sans prendre de risque, vous dire que le numéro 5 va bien se vendre, puisque, tout simplement, c'est le propre frère du meilleur cheval actuellement de 3 ans en France. Le Crystal Money.
Ça compte, hein, le livret de famille. Hein.
Assez prépondérant.
Nous verrons tout à l'heure à combien se vendra le numéro 5 et si les prévisions d'Hugues Rousseau s'avéreront justes. Alain Talon, c'était surprenant d'observer le public de ces ventes aux enchères cette semaine à Deauville sur un après-midi entier. On a vu des jeunes qui venaient regarder, on a vu des retraités qui étaient plongés dans le cahier de la vente, mais qui manifestement ne venaient pas pour enchérir. C'était très éclectique. Voilà, ça brassait beaucoup de générations et de peut-être aussi de milieux sociaux différents.
Oui, vous avez au moins deux types de publics. Vous avez ceux qui viennent là pour acheter, le cas échéant, ou pour se tenir au courant des ventes, des différentes origines, avec un enjeu effectivement professionnel. Et puis vous avez après, en parallèle, un public plus discret, passif, celui des gens qui sont passionnés de course et qui voient le galopeur, entre autres, comme étant un rêve. Voilà, ça c'est important de le signaler.
Et des jeunes aussi, alors. Et,
oui, sur le plan médiatique, on parle surtout effectivement des courses de galopeurs, puisque ça renvoie à effectivement un milieu aristocratique, à la haute noblesse. Il y a un côté champagne dans les courses de galopeurs, ce qui n'est pas le cas du monde du trotteur, qui est plus discret, qui a un monde qui vient de la ruralité, puis d'un cheval aussi de guerre. Donc ce sont deux mondes très différents. Le galopeur, c'est le rêve quasi inaccessible pour la plupart des passionnés.
Alors Alain Talon, je me tourne vers l'historien que vous êtes en tant que conservateur des musées du département de la Manche. On évoquait tout à l'heure la qualité du territoire normand, le plus favorable sans doute à l'élevage des chevaux. C'est donc la Normandie que les grands du royaume, dès le XVIe siècle, ont choisi comme terre d'élevage. Des chevaux qui d'abord, j'imagine, ont été sauvages avant d'être élevés par l'homme. À quoi ça ressemblait?
Ah oui, c'est un très long processus pour faire du cheval l'un des principaux, si ce n'est le plus, avec le chien, le plus fidèle des compagnons de l'homme. En Normandie, on sait que depuis à peu près Guillaume le Conquérant, depuis 1000 ans, on a beaucoup élevé de bons chevaux, de très grands chevaux.
La tapisserie de Bayeux nous en dit quelque chose?
Oui, près de 200 chevaux figurés sur cette broderie, c'est exceptionnel. Le cheval normand, et ça aujourd'hui on l'oublie quand on admire les galopeurs pour les courses, c'est d'abord et avant tout un cheval de guerre. Le cheval est sélectionné, élevé par les chevaliers pour pouvoir faire la guerre. Et les chevaux, les très bons chevaux que Guillaume le Conquérant a pu emmener en Angleterre, ont servi à faire la guerre, à conquérir l'Angleterre avant toute chose. Et puis, en Normandie, comme vous l'avez dit, c'est aussi un cheval de passion et de loisir pour la haute aristocratie, pour la noblesse. Le fils de Louis XIV, le Grand Dauphin, choisit effectivement de créer un haras dans les marais du Cotentin, à Saint-Sauveur-le-Vicomte, pour pouvoir faire des chevaux qu'il va utiliser pour aller à chasse à cour, pour chasser le loup en Île-de-France, à l'époque de Louis XIV, et puis aussi pour pouvoir tracter ces carrosses qui sont des voitures extrêmement luxueuses, très prestigieuses. Et le cheval qui est élevé dans la région est un très beau cheval, le carrossier noir du Cotentin, et du Bessin, donc le fils de Louis XIV qui est très au fait des affaires équestres et équines, effectivement choisit la Normandie comme étant une terre de prédilection.
Le haras du pin qu'on a coutume d'appeler Versailles du cheval, c'est un écrivain de chez vous je crois qui parle de...
Oui.
C'est de la Varande.
La Varande effectivement qui en réminiscence à la qualité des bâtiments construits et puis aussi par rapport au prestige des très grands chevaux qui sont passés, les grands étalons qui sont passés dans les écuries du haras du pin pour pouvoir effectivement servir la jumenterie normande.
Voilà, et c'est surtout le premier haras de province. Alors ces chevaux d'abord et avant tout destinés à la guerre pendant des décennies, et on en vient à la défaite de Sedan, 1870, date importante, dites-vous dans votre livre, dans l'histoire du cheval en Normandie, puisque là encore on oriente bien sûr cet élevage vers un usage militaire. Les plus beaux et les plus chers néanmoins de chevaux sont épargnés.
Oui, ceux qui sont toujours destinés au plaisir de la belle société, effectivement, sont épargnés. Mais dans la région...
Comment on les épargne?
Ils ne sont pas utilisés pour faire la guerre.
On les envoie vers Tarbes en train.
Voilà. Il y a un enjeu stratégique. Le cheval de guerre depuis Louis XIV et puis depuis Napoléon Ier, Napoléon III, le cheval est sélectionné par l'État pour assurer les besoins en chevaux pour faire la guerre. C'est un point constant.
Et est-ce que lors de défaites, comme ça a été le cas en 1870, la défaite de Sedan, est-ce qu'on accuse les chevaux d'avoir perdu la guerre?
Effectivement, alors il faut toujours trouver un coupable aux défaites militaires, et en l'occurrence on accuse l'armée et la cavalerie d'être responsables de cette débâcle très impressionnante. Et c'est presque une chance pour Saint-Lô et sa région, puisque l'État français décide effectivement d'allouer énormément d'étalons français, d'étalons anglo-normands, pour pouvoir effectivement servir une jumenterie qui est très importante et de grande qualité dans la région, et de manière immédiate.
Pendant la guerre de 14, même histoire, on utilise des chevaux, certains sont très vite affaiblis, certains, beaucoup meurent dans les combats, et une archive que vous avez retrouvée et qui dit, voilà, les grands chevaux plats, enlevés, légers et les jambes trop longues n'ont pas résisté aux grandes fatigues et à la privation d'eau, tous ont disparu avant un mois de campagne. Les cavaliers dont les bottes étaient chargées de boue et de terre étaient incapables de remonter à cheval au commandement, faute de pouvoir lever le pied assez haut pour atteindre l'étrier. Mais alors très vite, on va quand même faire la guerre sans cheval. Et alors, quelles conséquences sur l'élevage du cheval en Normandie?
pour pouvoir maintenir une activité équine et pour sauver l'excellente jumenterie normande, et bien normande, on décide de trouver des nouveaux débouchés. Et pour cela, donc, on invente très rapidement un nouveau type de cheval qui sera le cob normand, qui va servir comme cob artilleur pour tracter les canons, puis aussi pour apporter ses munitions et les vivres au front, et puis aussi qui va servir de manière extraordinaire pour les agriculteurs, pour les paysans normands.
Alors, la famille royale a depuis longtemps disparu. Qui profite du cheval, du retour du cheval de loisir? Qui est-ce qui invente les courses, par exemple? Comment ça se passe?
Alors, là aussi, on a une vision extrêmement ludique et de plaisir des courses. Mais là aussi, au XIXe siècle, M. Ephraim Well, qui était à l'époque sous-directeur du Haras de Saint-Lô, décide d'inventer les courses au trot officiel à Cherbourg en 1836 pour pouvoir sélectionner pour le compte de l'État les meilleurs étalons qui vont servir la jumenterie locale. Il y a une raison extrêmement pragmatique et stratégique donc de créer ces courses officielles pour les trotteurs.
Donc au départ, c'était pour éliminer les mauvais étalons et le trot n'était donc pas une course en soi. C'est sur la grande plage de Cherbourg qu'ont lieu les premières courses au trot pour lesquelles vont spécialiser de grandes familles normandes, la plus réputée étant la famille Lévêque, de Pierre Lévêque, voilà, à Saint-Côme-du-Mont, capitale mondiale du trotteur. Les haras qui font naître les chevaux destinés aux courses ne sont pas ceux qui les feront courir.
Pride, Saint-Malbène et le 15 avril par Prodigious et Queenly Pride qui a brillé au printemps cet été.
Ça va être le vôtre, Patrick Dupont.
Tout à fait.
Concentration.
Oui, oui, j'ai rien à faire, mais faire plaisir au moins. Se rassurer.
Le 133.
Le voilà.
Everest de Blary, un mal noir ici, né le 19 avril par Caro. 134.
Nickel.
Votre cheval à vous, Everest de Blary, était le numéro 133. Qu'est-ce que vous en avez pensé jusque-là de cette présentation?
Très bien, très bien, très élégant, beaucoup de classe, beaucoup... Bon, pas surpris parce que je sais que c'est un beau boulin, depuis toujours.
Comment vous décririez son trot, là, quand il a donc couru sur cette piste
élégant,
de sable?
Élégant, comme... pas surpris, mais oui, enfin rassuré, et puis élégant, quoi. C'est bien présenté. Impeccable.
Bon, ça y est, maintenant que le vôtre est passé... Relâche.
Oui, mais on va se retendre bientôt.
Pour la vente aux enchères.
Bah voilà, exactement, parce qu'on ne sait pas du tout où on va, quoi. Même s'ils sont beaux et que normalement il n'y a pas de souci, mais la pression est là quand même, quoi.
Mesdames et messieurs, nous remercions. Nous vous rappelons qu'un cocktail est offert à partir de 17h. Nous invitons à venir le partager avec nous et que la vente débutera à 18h précise.
Donc voilà.
Après le trot, le repos mérité dans le box d'Everest de Blary.
Il ressemble beaucoup à son père. Même modèle, un peu plus léger que le père, mais très belle ligne comme le père.
Mais qui c'est son père alors?
Caro. Donc voilà, j'ai toujours aimé ce cheval-là et j'ai eu ce poulain-là pour le moment, qui est le premier produit de Caro que j'ai eu.
Oui, on dit le produit pour dire le poulain.
Oui, on dit un produit.
Comment vous le décrivez en bon vendeur?
En bon vendeur? Ben, celui-là, il n'y a même pas besoin d'être bon vendeur parce qu'il est tellement agréable et tellement dans le caractère, dans le modèle, dans son origine qu'il n'y a même pas besoin. Des fois, ça arrive qu'il y ait besoin, mais là, il n'y a même pas besoin.
C'est un super
poulain, voilà, tout à fait. Beau tissu, il y a toujours eu un tissu plus beau que les autres, et ce poulain-là a toujours été un poulain très agréable.
Sa musculature...
Oui, voilà, mais il est harmonieux, et c'est un poulain qui est vraiment fait pour aller aux courses, quoi. Il est fait en athlète, quoi. Voilà.
Combien vous en espérez, alors, de ce cheval?
Ça se dit pas, il faut pas. Voilà.
Ça porte malheur?
Ça peut, je sais pas ce que ça peut faire, mais je... Voilà, faut pas. Je pense qu'il faut pas. Mais bon, c'est un poulain, je ne vais pas en faire cadeau, j'aime pas parler comme ça, mais je ne vais pas le laisser partir non plus pour une somme modique, quoi. Je vais le garder, quoi, si c'est le cas, parce qu'il mérite tout.
Vous pouvez vous opposer à une vente.
Voilà, tout à fait. Après, il faut avoir les moyens, parce que je suis dans une période pas trop mauvaise, donc j'ai les moyens éventuellement de le garder s'il y a besoin. Donc, je vous dis, il y a tout un ensemble de facteurs qui rentrent en ligne de compte, quoi.
Vous, Patrick Dupont, vous êtes normand.
Je suis normand, je suis à 3 km de Bayeux, dans le Calvados. J'ai 7-8 poulinières. Je commence à augmenter un peu parce que ça se passe pas trop mal. Après, voilà, quoi, faut faire attention, quoi, pas s'en faire envahir, pas se faire avoir par le nombre, parce que c'est souvent la maladie du métier. On a envie de tout garder, quoi. Hein. Et ça, c'est dangereux. Économiquement, c'est dangereux, quoi. Donc, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait, donc avoir l'âge de raison, déjà, ce qui est mon cas maintenant, mais c'est important tout ça. Parce que c'est un métier dangereux.
Pourquoi ?
Bah, parce qu'on ne sait pas où on va du tout, quoi. C'est très fluctuant, tous les 3 mois, tout le monde change d'avis, c'est très, très compliqué. Très, très compliqué. Donc, il faut arriver le jour J avec le bon étalon, la bonne jument, forcément, et le bon étalon bien à la mode, et ça, il n'y a pas de malin, quoi. Il n'y a pas de malin. Il y a une bonne étoile de temps en temps, et puis des fois pas, puis voilà.
Vous faites ça depuis combien de temps ?
Il y a longtemps, mais j'ai un peu arrêté. Enfin, j'ai une vie un peu perturbée, un peu chamboulée, et donc j'ai fait de l'élevage, j'ai fait un peu d'entraînement à une époque, j'ai tout arrêté, j'ai acheté un bar-restaurant entre deux. Je savais que j'y retournerais un jour, et j'y suis retourné. Et là seulement en tant qu'éleveur. Quoi. Et je fais que ça, bon, après, bon, voilà. Quand on vit sa passion, on est déjà moins exigeant pour le reste.
Et vous venez vous-même d'une grande famille d'éleveurs ?
Non, du tout, du tout. Du monde agricole ? Avec des vaches à lait, avec après des vaches à viande, un peu de tout. Quoi.
Et comment vous en êtes venu aux chevaux ?
Oh, j'en sais rien, je devais avoir ça dans les gènes, parce que j'ai un grand-père, un arrière-grand-père qui avait des chevaux de carriole, mais qui a été aussi des trotteurs après. Et puis voilà, je devais avoir ça coincé dans mes gènes, et puis c'est ressorti. C'est sur moi que c'est tombé, tout simplement.
Il s'agite, la Everest de Blary. Qu'est-ce qu'il vous dit ?
Je sais pas. Je sais pas ce qu'il me dit. Mais c'est un poulain sympa. J'espère qu'il va tomber dans une maison qui méritera. Parce que c'est un poulain sain, très très sain. Oui ? Hop, attendez, on me demande. Ah non. Tu m'as appelé ? Ouais, il va sortir, il y a des clients qui veulent le voir.
D'accord.
Ouais, vas-y. Vas-y. Pas de problème.
Qu'on prépare à une vente, on le dorlote, on surveille ses repas, séances d'ostéopathie.
Non, il n'y a pas besoin de tout ça. Il faut les rations équilibrées, mais c'est comme ça toute l'année, donc il n'y a pas de raison que ça change. Quoi. C'est juste au niveau de toilettage, des choses comme ça, où on en a plus. Et puis au niveau dressage, on leur apprend à marcher, on leur apprend à se tenir, on leur apprend 2-3 trucs, mais sinon, il n'y a rien de vraiment en plus. Quoi. Au niveau nourriture, il n'y a rien de supplémentaire, ça c'est sûr.
Il y en a un qui n'est pas content, là.
Non, tout à fait. Un qui s'impatiente.
Il donne des coups de sabot dans la
porte. Ouais. Il a envie de sortir. Hein.
Jusqu'à présent, votre meilleure vente, puisqu'on ne va pas parler de celle d'aujourd'hui, donc celle que vous avez pu réaliser...
J'ai commencé les ventes il y a 3 ans. Première année, ça s'était très bien passé. J'en ai vendu un 42 000 euros, un 38. Et j'avais dû vendre une pouliche 27 000 euros, je crois. Donc le résultat était très plaisant, quoi.
Tout pourrait s'écrouler sur une mauvaise vente ?
Pas s'écrouler, mais bon, parce qu'il y a le côté des primes à l'éleveur qui viennent dans l'année, il y a tout ça, donc il n'y a pas que les ventes pour le chiffre d'affaires de l'année. Donc, mais c'est la moitié de l'année qui est en jeu. Quoi.
Bon, alors là, il est au milieu des spectateurs.
Voilà, il travaille pour moi,
ouais.
J'espère. Mais il se présente bien, je vous dis, il est élégant, c'est un poulain élégant, il a ça dans le sang. Quoi. Il se présente bien, il est chouette, il est... Voilà. Super poulain.
Vous y êtes attaché quand même. Il y a ce moment de la séparation qui doit être difficile à chaque fois. Il n'est jamais que dans ses deux ans.
Oui, mais bon, je vous dis, on a l'âge de raison. Hein. Donc, on sait pourquoi on le fait. Et voilà, on a des factures à payer. Donc, il n'y a pas... Voilà. Mais vous avez quand même raison. Surtout un comme ça. Si on pouvait les mettre ici et en vendre que 80%, j'en garderais un bout. Hein. Voilà. Mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, voilà. Je vous dis, il y a deux ressentis, il y a le côté économique, et puis il y a la passion, parce que si on fait ce métier-là, c'est qu'on aime les chevaux. Et puis voilà, quoi.
Oui, il y a quand même un petit pincement au cœur.
Ouais. Sinon, on ne ferait pas ça. Quand on fait vraiment ce métier-là à fond, c'est que voilà, on est passionné, donc on a envie que ça aille au bout. Quoi.
Bon, il vous reste plus que quelques minutes avec Everest de Blary, donc on va peut-être vous laisser tous les deux.
Oui, oui.
Sur la route de la Normandie hippophile, nous sommes dans les studios de France Bleu Basse-Normandie à Caen avec notre invité Alain Talon. Alain Talon, c'est touchant cet attachement des éleveurs à leurs poulains, à leurs chevaux, dont ils se séparent à 18 mois puisque c'est l'âge des yearlings. Il y a toujours ce rapport-là avec les bêtes.
Oui, parce que depuis, on peut remonter l'histoire des chevaux bien sûr, mais aussi des naisseurs, des éleveurs depuis de nombreux siècles et... Je crois qu'en Normandie, comme nulle part ailleurs, il y a un rapport au cheval qui est très particulier, qui est extrêmement fort dans les bons et les mauvais moments. C'est très prégnant en Normandie, c'est très émouvant. Il suffit de voir comment se comportent pendant les courses, pendant les concours d'élevage, les vieux éleveurs expérimentés, un peu taiseux, comme le sont les Normands, puis aussi voir leurs enfants et leurs petits-enfants qui dès qu'ils savent marcher, sont éduqués, leur regard est éduqué à pouvoir percevoir un bon poulain, un bon cheval. Et ça, effectivement, c'est très émouvant.
Vous disiez dans les bons comme les mauvais moments, on parlait des guerres tout à l'heure, la plus récente, la Seconde Guerre mondiale, 10 000 chevaux tués dans la Manche pendant la Seconde Guerre mondiale, avec certaines familles d'éleveurs, j'imagine, qui ont à l'époque perdu des cheptels entiers.
Absolument. Pour ne citer qu'un seul exemple, je pense à la famille Broyer qui, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, a tout perdu. Heureusement, la famille n'a pas eu de perte humaine, c'est la première des choses à dire. Et puis, effectivement, ils ont perdu. Les bombes sont tombées sur la ferme et tous leurs chevaux sont morts, sauf une jument irlandaise qui a permis de reconstituer leur élevage pour pouvoir aujourd'hui avoir la quatrième génération de naisseurs et d'éleveurs de chevaux de sport, celle française. Et aujourd'hui, c'est Denis Broyer donc, qui est à la tête du haras de Tamerville et qui fait naître des chevaux de tout niveau, mais qui parfois sont membres de l'équipe de France. C'est un très bel élevage.
Donc il y a vraiment eu la tradition s'est perpétuée dans ces familles-là.
Avec des sacrifices, bien sûr humains et puis matériels, à cause des guerres, notamment le débarquement. Mais après-guerre, il y a un rapport, il y a un contexte nouveau. Les campagnes se mécanisent et se motorisent surtout. Donc, quoi faire? Il est tentant de vendre ces juments, même si on y tient beaucoup. Il faut vivre, il faut, dans une région très sinistrée, qui souffre matériellement, on se pose la question, doit-on conserver sa jumenterie? Les Normands qui sont passionnés, qui ont le virus du cheval dans le sang, effectivement, ont fait de gros efforts pour pouvoir, pour certaines familles, conserver leur jument, pour inventer ce métier dans les années 50 d'éleveur de chevaux de sport, qui était à l'époque complètement extraordinaire et qui aujourd'hui tient toute sa place dans l'économie et dans la culture normande.
Avec la création de la société hippique rurale, c'est ça? C'est dans ces années-là? Quel a été son rôle à cette société hippique rurale?
Alors, ces différentes sociétés qui sont créées au niveau des cantons, coordonnées par M. de Laurent de Saint-Martin, le directeur du RA à la Libération, le but c'est de pouvoir permettre aux jeunes éleveurs, aux jeunes cavaliers de monter leurs chevaux pour pouvoir mieux les vendre, en faire un meilleur commerce, aussi pour conserver et sauver cette jumenterie anglo-normande extraordinaire.
Une jumenterie qui a été aussi sauvée à coups de saillies, parfois à grande échelle. Je crois que pendant la guerre, les éleveurs se faisaient réquisitionner leurs juments et les faisaient saillir parce qu'une jument saillie était intouchable et que c'était une manière de les sauver, mais que finalement, ça donnait lieu à des scènes assez tristes.
Alors, cette organisation vaut effectivement pour la Première Guerre mondiale. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les éleveurs normands vont tenter de faire la même chose pour dire « tentons de sauver nos juments ». Ceci étant, les Allemands arrivent en 40 et puis en Normandie, il faut construire, les Allemands construisent le mur de l'Atlantique. Donc on a besoin d'hommes et de chevaux pour construire ce mur. Et au fil des années, les procédures se durcissent et les Allemands vont finir par acquisitionner la plupart des chevaux.
Alors la région Basse-Normandie aujourd'hui compte 8000 éleveurs, ce sont les chiffres publics. Ce sont surtout des petites structures familiales. Qui sont ces 8000 éleveurs?
La plupart viennent du monde rural, agricole, paysan. Donc ils ont une, deux juments qu'ils essaient effectivement en plus...
En appoint.
En appoint, voilà. Ils ont un élevage bovin pour la viande, pour le lait, etc. Ou un élevage porcin. Effectivement, pour leur loisir, ils essaient effectivement, en faisant des efforts malgré tout, donc de conserver une jument ou deux qui va mettre bas tous les ans pour essayer de faire un bon cheval de sport. Et puis, on voit apparaître depuis 15 ou 20 ans une nouvelle économie du cheval de sport. des gens qui ne sont pas forcément issus du monde rural en tant que tel ou qui vivent d'autres métiers, mettent en place des nouveaux systèmes avec l'insémination artificielle, avec des nouvelles techniques, des nouveaux modes commerciaux aussi, avec des structures qui sont beaucoup plus importantes où on n'a pas seulement une ou deux juments, mais parfois 5, 10, 15 juments qui sont mises à la production avec leurs propres étalons. Donc c'est un modèle économique nouveau et qui voit l'économie et la culture du cheval de sport évoluer rapidement en Normandie.
C'est un heure qui s'appelle Pina Malka et une conduite civile qui s'appelle.
Il est intéressant, le papier de mer surtout.
Vous avez pris des notes ?
Non, les vrais professionnels, ils prennent pas de notes, ils ont tout dans la tête. Mmh. C'est pas...
Vous n'avez pas vos petits calepins, là ? J'ai pas vu un calepin. Si, derrière le dos, là.
Si,
on a tous.
C'est vrai que quand on est vraiment acheteur, on cherche. On note les petits défauts.
On fait tout d'abord, puis après on note effectivement, physiquement, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est différent de ce qu'on imaginait. Enfin, penser à...
Par exemple, celui qui vient de passer, la Nikki, c'est ça ?
Nikki, c'est le père.
Ah, Nikki, c'est le père. Et dans le fils, alors, qu'est-ce qui vous plaît ?
Dans le poulain ?
Oui.
Je trouve bien fait, moi, d'un format et pas trop grand, etc. Bon, Nikki est des talons bien. Bon, c'est pas Redicage, c'est pas un des grands étalons de tête de lisse, mais c'est un étalon intéressant.
Vous, monsieur, qu'est-ce que vous regardez dans le physique d'un cheval ? Peut-être son attitude ?
Que je regarde, essentiellement son physique, savoir s'il est bien fait. On commence par la tête, une belle tête.
C'est quoi une belle tête de cheval ?
Une belle tête, c'est un cheval qui a d'expression dans sa tête, un regard assez énergique. Pour ma part, j'aime pas les chevaux qui ont le chanfrein busqué.
Oui.
Je trouve que ça manque d'élégance, ça manque d'expression un petit peu. Puis après, on passe à l'encolure, les membres. Le plus important, c'est les membres.
Vous êtes d'une exigence ?
Oui, c'est très... plus exigeant avec les chevaux qu'avec les humains en général. Parce que si les humains passaient sous les mêmes critères, il n'y en a pas beaucoup qui seraient achetés.
Alors Joël Allais, expliquez-moi comment on prend cette décision de miser aussi gros sur un cheval, de prendre ce risque-là.
Je peux vous raconter une petite anecdote ? À l'époque, j'achetais beaucoup de fils de Chambon-Pé. Et un jour, j'avais notre ami Francis Grosse qui m'a dit « Il y a un Chambon-Pé à vendre à Deauville, il faut l'acheter. » Donc, je l'ai acheté. Et je l'ai acheté 150 000... J'ai toujours tendance à dire qu'on a fini à moins 40. C'est tout.
Il vous a fait le coup du non-partant, c'est ça ?
Non, il nous a fait le coup du cheval qui n'était pas très courageux. Mais par contre, très gentil, il a fini à promener un habitant de Deauville qui ne savait pas qu'il se promenait avec le top des ventes de cette génération.
Vous ne lui avez jamais dit, en plus, vous aviez honte ?
Non, mais je n'ai pas eu honte d'avoir acheté ce cheval-là parce que j'en ai acheté d'autres qui ont été très bons. Donc, ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, vous en achetez un bon, demain, vous en achetez un mauvais. Ça fait partie du jeu. Et maintenant, je peux vous raconter Ursula de Coué qui a été acheté pour 6 000 francs aux ventes de Caen, qui, lui, a gagné plus de 2 millions d'euros. J'ai été courir aux États-Unis avec. Il a été troisième du championnat du monde. Il a coûté 1 000 euros.
Donc les apparences peuvent être trompeuses.
Après, il y a toute une part de chance. L'important, c'est d'y croire.
Alors, monsieur Barjon, nous sommes à quelques minutes de la vente aux enchères. Je crois qu'il nous reste quoi, une demi-heure, là ? Est-ce que vous avez repéré un cheval qui vous plaît ?
Plus que plusieurs chevaux qui me plaisent. Mais vous savez, c'est toujours très aléatoire. Hein, donc c'est que de l'excitation et du risque. Donc on a beau les voir ici, vous allez croire qu'on voit quelque chose, mais à mon avis, on ne voit pas grand-chose.
C'est que de l'excitation et du risque.
Absolument. Et du rêve. Du rêve parce que vous savez que dans l'ensemble des chevaux qui sont ici, 4 ou 5 vont devenir des très bons chevaux, voire des cracks. Et après, vous allez vous dire pourquoi je ne l'ai pas vu et pourquoi je ne l'ai pas trouvé. Mais il m'est arrivé aussi de l'avoir. Donc,
Lesquels alors ?
Moi, j'ai eu la chance d'acheter Nikki dans une vente et ce cheval est devenu un des meilleurs. Et d'ailleurs, il est étalon et il a beaucoup de ses produits qui sont ici. Donc, je regarde ses produits avec les yeux de l'amour. Mais malheureusement, le yearling, c'est ce qu'il y a de plus risqué. Et pour un succès que vous allez expliquer, vous allez écrire des tomes d'échecs. Alors là aussi, c'est très intéressant parce que vous allez voir aujourd'hui, il y a des chevaux que tout le monde veut, qui vont valoir très cher et qui vont peut-être décevoir. Et puis, vous pouvez aussi chercher avec des budgets plus faibles et trouver aussi le cheval qui va réussir. Moi, j'ai eu la chance de gagner le prix d'Amérique avec un yearling que j'ai acheté dans un champ, 9000 euros.
Elle date de quand, cette passion, chez vous, Jean-Pierre Barjon ?
Moi, elle date de reportages que je voyais autour du 15 août, des ventes de yearling et Deauville, justement sur cette thématique où on peut être joueur, mais pas joueur de casino. Et on se dit, dans tous les chevaux qui passent, il y en a un qui est un champion. Donc c'est quelque chose qui m'interpelle depuis une trentaine d'années.
Et à part le cheval, vous faites quoi ?
À part le cheval, moi je suis entrepreneur, donc j'ai relancé la limonade artisanale en France et dans le monde, et on a la chance de pouvoir vendre nos produits dans 45 pays. Et donc l'idée d'être challenger dans un monde de multinationales me plaît beaucoup, comme l'idée d'acheter un yearling parmi les 600 qui sont à vendre et d'espérer que ça va être un champion. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on analyse les résultats des meilleurs chevaux par rapport au prix dont ils ont été payés, on arrive en France à quelque chose qui est très social et très populaire. Les meilleurs chevaux ne sont pas forcément les plus chers. J'ai envie de dire, c'est vraiment un monde ouvert où chacun peut raisonnablement croire dans son étoile, croire dans son jugement et vivre son plaisir.
Qui était cette comtesse qui disait que les bons chevaux ne coûtaient pas cher, c'était les mauvais chevaux qui coûtaient cher.
Absolument.
Les enchères vont commencer. Vous avez la main sur le portefeuille.
Oui, je regarde, j'ai 5 euros dans la poche. Donc on va être obligé de faire un virement.
Vous êtes prêt à mettre combien sur un cheval ?
Ben là, justement, comme je ne suis pas dans la grande excitation, je vais essayer, comme toujours, de limiter le risque et donc de faire les investissements les plus intelligents possibles, entre guillemets, vous l'avez compris, parce que c'est très, très risqué. Donc, si par hasard, on pouvait avoir le coup de cœur et qu'en plus, les autres ne l'aient pas. Mais si les autres ne l'ont pas, ça devient inquiétant aussi, vous voyez. Donc, y a une équation, une péréquation très compliquée à faire. Et là-dedans, il y a le moral, il y a l'optimisme, il y a l'humeur, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu. Voilà.
Numéro 5, présenté par le Hara du Bois Josselin, Exit Money, Malbé, né le 15 mai par Coltec Jack et Mackin Money.
Somptueux pédigré, magnifique poulain ici. Cocktail Jet, Making Money, propre frère de Crystal Money. Voilà ici pour Exit Money. 50 000. Allez, 30, on débute bas à 30, je vous écoute. 30 ici, Exit Money, propre frère de Crystal Money. 30 000, mettez-vous en chair, 30 000. J'ai preneur à 30 000. 30, mettez-vous en chair, 30, 35, à 35 000. À 35, bien sûr, à 35 ici. À 35 000, je vous écoute à 35. Et vous en chair à 40, à 40 000 maintenant. À 40 000 euros. À 90 000 euros, à 90 000 euros. À 90 000 euros. À 90 000 euros, le frère de Crystal Money a son petit papier ici à 90 000 euros. À 90 000 euros. 100 000, à 100 000 euros, nous sommes à 100. Dernier appel à 100, à seulement 100, à 100 000, bien sûr, à 100 000 euros. Voilà une belle acquisition, propre frère à la craque, à 100 000 euros. On a dû. À gauche, 100 000.
Allez, quelques résultats des enchères de cette semaine à Deauville. 100 000 euros pour le lot numéro 5, dont Hugues Rousseau nous disait en début d'émission qu'il se vendrait bien, il avait vu juste. Everest de Blary, le poulain de l'éleveur Patrick Dupont, 33 000 euros. Le top price, comme on dit ce soir-là, fut le lot 137, adjugé à 155 000 euros. Alors Alain Talon, expliquez-nous comment un cheval peut atteindre 2 600 000 euros quand c'est un pur sang. Qu'est-ce qui justifie ce prix qui laisse songeur, inaccessible évidemment pour 99,999% des gens?
Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. La valeur supposée intrinsèque du poulain, d'abord on se base sur ses origines, le père, la mère, elles sont essentielles, puisque depuis des générations, on sélectionne les aptitudes et les qualités du père et de la mère pour pouvoir galoper le plus vite possible.
Oui, on disait tout à l'heure, on parlait des facteurs de prix, mais un pur sang reste un pur sang, puisque si j'ai bien compris, un pur sang normand, c'est le même pur sang qu'en Arabie Saoudite, c'est le même pur sang qu'en Argentine, enfin tous les purs sangs sont mondialisés.
Oui, alors après, certes, il y a des... Aujourd'hui, effectivement, le commerce et les courses sont mondialisés, comme vous l'indiquez. Ceci étant, il y a quand même encore, à travers les différents territoires du galopeur, des qualités intrinsèques. Les galopeurs normands, par exemple, sont certes très rapides, sont très endurants, parce qu'on court, on galope sur différentes distances. Donc, vous avez des sprinteurs, c'est un peu comme en athlétisme, vous avez le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres, donc... Selon les régions, on va effectivement faire attention à ces qualités en tant que telles.
Et comment on prend soin d'eux, de ces galopeurs qui peuvent coûter des millions d'euros? Ils font l'objet d'un traitement spécial dans les haras de la Manche, par exemple, ou de l'Orne?
Alors, en Normandie, là comme ailleurs, on fait attention effectivement à la nourriture qui est apportée à ces chevaux, selon leur activité, selon leur âge. Il y a bien sûr un contrôle sanitaire très important et aussi le vétérinaire, l'ostéopathie. Aujourd'hui, il y a quantité de nouveaux métiers qui apparaissent pour que la santé et l'environnement du cheval soient le plus performant possible.
Mais on m'a même parlé de spa à l'eau de mer. Vous en avez vu des haras qui sont des vrais spas ou centres de thalassothérapie pour les chevaux?
Oui, effectivement, certains créent ce genre de structure et d'équipement. Et puis il y a aussi, nous sommes en Normandie, donc nous sommes entourés par la mer de la Manche. Donc certaines entreprises, effectivement, font de la thalasso ou aussi même des cavaliers eux-mêmes qui amènent leurs chevaux, les cavaliers, des drivers, des naisseurs, des éleveurs qui profitent de la mer qui n'est jamais très loin pour pouvoir effectivement faire des bains de mer pour leurs chevaux.
Mais ce sont des investissements qui laissent d'autant plus songeurs qu'ils n'ont aucune garantie que les chevaux donnent satisfaction et qui garantissent un retour sur investissement rapide.
C'est effectivement une sorte de loterie. On achète du rêve aussi quand on achète un galopeur, surtout lorsque c'est un galopeur. C'est un peu différent pour le trotteur et pour le cheval de sport, mais c'est très prégnant effectivement pour ce qui est du galopeur.
Alors vous parliez de ces nouveaux passionnés de cheval, ça fait en fait voilà deux mondes qui coexistent, vous nous l'avez dit, un monde encore rural d'éleveurs qui ont parfois un cheval en appoint d'une production laitière par exemple, et de personnes qui depuis peut-être 10 ans, des investisseurs voilà, qui ont suffisamment d'argent pour investir dans le cheval. Est-ce que ce sont deux mondes qui coexistent? Comment se passe cette cohabitation?
Ce sont deux mondes qui se connaissent partiellement, mais qui travaillent en parallèle, puisque le modèle économique est très différent, la culture est différente, les moyens financiers, bien sûr, sont différents. Le monde du trotteur est celui de la ruralité, celui d'un travail très discret. On a affaire à des taiseux qui ne parlent pas de leur succès éventuel, surtout de leur désillusion, de leurs échecs. Et puis, on parle plus effectivement du galopeur à travers les médias, avec depuis quelques années effectivement l'arrivée de nouveaux acheteurs qui viennent du Moyen-Orient.
Ils ont le même rapport à leurs bêtes, ces deux mondes-là?
Oui, je pense, quelle que soit la valeur, les moyens financiers de l'acheteur, des propriétaires, dans les deux cas, on a affaire à des passionnés qui aiment leurs chevaux.
Peut-être que ceux qui en ont depuis des générations sont plus pragmatiques?
Oui, parce qu'il y a un rapport différent. C'est un animal de rente qui doit rapporter de l'argent pour pouvoir vivre au quotidien.
Alain Talon, ces enfants des années 50 qui ont fait l'élevage normand d'après-guerre sont aujourd'hui âgés. Comment est-ce que ce modèle normand va évoluer dans les années à venir?
Certains passionnés qui sont encore dans le monde rural perpétuent cette expertise, cette grande connaissance du cheval. Et puis, effectivement, il y a de nouvelles structures, de nouvelles économies avec des gens qui sont pas forcément qui sont des néo-ruraux, mais qui sont tout autant passionnés par l'élevage.
Merci Alain Talon. L'histoire de l'élevage du cheval en Normandie n'est pas linéaire. Elle est ponctuée de périodes d'adaptation des modèles équins aux différents besoins des hommes. C'est une histoire que vous racontez dans votre livre « Le cheval en Normandie 1665-1965 du carrossier noir au sel français » publié aux éditions OREP. Nous mettons les références en ligne. Merci Alain Talon. Notre petite entreprise poursuit sa route. Yvon Croisier au volant, copilote Sophie Bobert. Merci à France Bleu Basse Normandie pour son accueil. À la technique ce soir, c'était Romain Descoutures. La semaine prochaine, nous serons dans les Pyrénées à la rencontre de 6 détenus de la maison d'arrêt de Pau, à qui l'on a confié la mission de restaurer le fort du Portalet, bâtisse perché sur une falaise qui domine le gave d'Aspe. Une initiative encouragée par le ministère de la Justice qui souhaite encourager l'aménagement des peines. Dans un instant, il sera 19h sur France Culture. Vous retrouverez Tout un monde de Marie-Hélène Fraissé.